nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors cette parabole, au départ, c'était pas un cadeau pour faire une homélie, mais en s'y attelant et en luttant avec le texte, on peut voir un peu ce que Jésus veut nous révéler à travers sa parabole. Et Jésus, comme vous savez, parle très souvent en parabole, et il en parle pour évoquer le royaume des cieux ou de Dieu, selon Marc ou selon Matthieu ou Luc. Et ce qui veut dire que Jésus ne définit pas de manière conceptuelle le règne de Dieu, et pour l'évoquer, il parle de manière non religieuse, il prend les images de la vie de tous les jours, la vie paysanne, les relations, la vie économique, la vie des bergers. Et il évoque pour provoquer, pour appeler à, pour éprouver. Il met en appétit. Il veut exciter notre désir et il nous amène à nous désencombrer de nos certitudes, de notre prétention de savoir, et nous amener à une conversion, à un retournement, et à nous faire entrer dans une autre logique. Alors une parabole peut avoir un sens pluriel, et nous le voyons à travers les interprétations des pères de l'Église et d'autres. Et concernant celle-ci, elle porte plusieurs titres. Parabole de l'économe infidèle, de l'économe malhonnête, de l'économe avisé. Et moi, je lui donnerai le titre de l'économe avisé selon la logique du royaume. Et c'est une émission protestante, une interprétation d'une protestante qui m'a inspiré. Qui serait l'intendant ? Cet intendant qui est diffamé, dont la réputation a été entachée. On entend dire, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi compte de ta gestion. Eh bien, cet intendant serait l'image du Christ. Et le maître inconscient qui aurait confié ses biens à cet intendant, serait Dieu le Père. L'intendant, c'est le Christ qui dilapide les biens célestes, la grâce, sans compter. Ce bien n'a pas de limite. Et cet intendant allège la dette des débiteurs que nous sommes. Et cette parabole nous met en lumière la prodigalité du Christ. Et reportons-nous à ce qui précède, les trois paraboles de la miséricorde qui évoquent la folie amoureuse de Dieu, la folle générosité. Cependant, tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et scribes le murmuraient, « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Rappelons-nous aussi la parabole des ouvriers de la dernière heure. Le patron donne comme salaire autant au dernier qu'au premier, et selon la logique du monde, c'est la grève assurée. Nous retrouvons là les diffamateurs, ceux qui murmurent, qui insinuent que l'intendant gère mal l'entreprise. Rappelons-nous dans la Bible l'accusateur qui insinue que Job n'est pas si juste que cela. Me vient en mémoire aussi une parole du Coran, où les diffamateurs, ce sont les anges. Voici dit un passage du Coran. Lorsque le Seigneur dit aux anges, « Je vais établir un successeur sur terre », ils dirent, « Vas-tu établir quelqu'un qui fera le mal et répandra le sang, tandis que nous proclamons ta louange et nous proclamons ta sainteté ?» Et le Seigneur dit, « Je sais ce que vous ne savez pas. » Et nous retrouvons bien là la logique des diffamateurs, du fils aîné, des pharisiens, qui refuse d'entrer dans la logique de la grâce. Nous retrouvons cette diffamation dans une forme d'athéisme. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de violence, de souffrance. Rappelons-nous, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, la légende du grand inquisiteur rapportée dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Ça se passe en Espagne, et le grand inquisiteur chasse le Christ, va-t'en, ne revient plus. Parce qu'il voulait la grâce et la liberté et lui démontrer que les hommes ne la méritent pas, car il veut être rassasié de pain, être assuré et conduit avec autorité. La logique de l'évangile n'est pas celle du grand inquisiteur. C'est la logique de la générosité surabondante. C'est l'image du semeur qui sème à tout vent, abondamment. Dieu accueille et donne sans compter. Le don est inconditionné. La dette est allégée, remise. À nous d'être les bons attendants de cette grâce. Nous sommes enfants de Dieu, dit saint Paul, nous sommes héritiers. Être attendant de cette grâce, vivre en héritier, vivre selon l'esprit et non selon la chair, c'est entrer dans la passion du Christ pour l'humanité. Accueillir le royaume, c'est entrer dans ce projet de Dieu. Il s'agit aussi d'entrer dans une générosité et de ne pas faire de l'argent un maître. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, l'argent d'iniquité, pour qu'une fois disparu, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Les amis ici, ce sont les pauvres. Ce n'est pas pour rien que Luc termine ce chapitre avec la parabole du riche et de Lazare. Jean Chrysostome soulignait, dans une émeute assez percutante sur la pauvreté, soulignait la solitude des pauvres qui n'ont pas d'amis. Et Maurice Hundel rapportait ce qu'une dame disait, « Le drame des pauvres, c'est que nous n'avons pas besoin de leur amitié. » L'argent est la pire des choses. L'argent avec une majuscule, le mammon, c'est la puissance qui domine le monde. C'est le démon de l'avarice, de la richesse, des biens matériels. C'est l'argent qui nous donne l'illusion de réussir notre vie, qui nous garde prisonniers de nos convoitises. C'est peut-être aussi d'autres formes de richesse, nos compétences. Les utilisons-nous pour dominer ou pour être au service? Est-ce que l'argent vaut plus que nos relations? Saint Jean Chrysostome fera cette remarque déjà au IVe siècle. Nous n'avons de respect ni pour le ciel où nous sommes tous appelés, ni pour la terre qui nous a été donnée pour en jouir tous ensemble, ni pour la nature même qui nous est commune à tous. La passion de la colère et l'amour de richesse ont tout ravagé dans nos cœurs. La communauté chrétienne décrite par les Actes des Apôtres est celle d'une fraternité où il n'y a pas de laisser pour compte. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi n'avait qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais on mettait tout en commun. Et c'est avec grande force que les apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et de la puissance, de la grâce était sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans la misère, car tous ceux qui possédaient les champs ou des maisons les vendaient, et ils en apportaient le prix pour le déposer aux pieds des apôtres. On en redistribuait une part à chacun des frères au fur et à mesure des besoins. Toutes nos richesses, notre argent, nos compétences sont dans la logique de l'économie divine si nous les mettons au service de la construction de la fraternité et de la justice, et particulièrement des plus pauvres, au service de l'amour du frère, et si elle nous ouvre à l'amour de Dieu et du frère. L'Évangile nous invite à mettre nos compétences, nos énergies, à être des tisserands, à œuvrer pour réparer ensemble le tissu déchiré du monde, selon l'expression d'Abdennour Bida, philosophe, dans son livre, « Réparer le tissu déchiré du monde », qui sont les fractures sociales, la guerre économique, les conflits religieux, le divorce avec la nature. Nous sommes invités à recréer des liens nourriciers de la vie, le lien du moi au soi, le lien de la fraternité, le lien d'émerveillement par rapport à la nature. L'évangile de Luc nous montre la figure de Zachée qui, laissant accueillir Jésus dans sa maison et dans son être, dans sa joie transforme toutes ses relations. Il répare l'injustice dont était la cause et restaure les liens déchirés par la cupidité. Être héritier du royaume, c'est entrer dans cette gratuité de relations. Quand tu invites, invite les pauvres. Heureux es-tu de ce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre. Nous sommes dans la pure logique du royaume, espace de générosité et de grâce. Jésus nous met en garde contre les relations mondaines qui ne servent qu'à enfler réciproquement notre ego. Un des obstacles majeurs est l'avarice qui pourrit nos relations et qui enferme l'homme. Être héritier du royaume, c'est aussi donner plus d'importance à la loi divine comme espace de générosité, de miséricorde, de gratuité qu'à la loi mondaine des hommes faite de compétition et de chacun pour soi. C'est vivre dans l'amour de Dieu, vivre dans la communion fraternelle et l'action de grâce. Alors nous serons des enfants de lumière, la nuit de notre chemin sera lumière de midi. Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Maurice Bellet, ce théologien prêtre psychanalyste décédé il y a un an, disait que l'Église est là où il y a l'agapé, la bienveillance, l'ouverture. Et Grégoire de Nazianze, dans aussi une longue homélie sur la pauvreté, dira ceci: « Ne cherchez à vous distinguer des autres que par votre générosité. Soyez des dieux pour les pauvres en imitant la miséricorde de Dieu. » Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.